autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs, pour partager une formidable odyssée, la nôtre. 7 millions d'années d'histoire collective de l'humanité, révélée par nos gènes, par notre ADN actuel, mais aussi par l'ADN ancien, celui de tous nos ancêtres, qui ont fait de nous ce que nous sommes. Tous issus du même berceau africain et tous différents, tous métissés, tous héritiers de cette extraordinaire histoire collective faite de migrations et de rencontres. Comment l'espèce humaine a-t-elle occupé toute la Terre? Quelle route nos ancêtres ont-ils emprunté? Comment notre génome s'est-il adapté au changement climatique? Et comment cette mémoire de l'humanité est aujourd'hui inscrite dans l'ADN des 7,5 milliards d'individus tous métissés qui peuplent aujourd'hui la Terre? Voilà ce que nous avions cherché à comprendre en septembre dernier avec la professeure Evelyne Heyer, chercheuse en anthropologie génétique au Muséum National d'Histoire Naturelle, à l'occasion de la publication de son ouvrage « L'Odyssée des Gènes » ou « L'histoire collective de notre humanité dans son extraordinaire diversité ». Autour de la question « Pourquoi la mémoire de l'humanité est-elle inscrite dans nos gènes ?» Bienvenue pour réécouter cet entretien qui s'ouvrait sur cette réflexion inspirante et inspirante du philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne.
Je me souviens, on avait invité une fois Albert Jacquard à Dakar, généticien des populations, et l'idée qui était ressortie de cette génétique des populations, outre la diversité, c'est que cette diversité, si vous voulez, ne recoupe pas nécessairement les diversités les plus visibles. Autrement dit, la génétique des populations a de quoi mettre fin au racisme prétendument scientifique qui traîne encore beaucoup dans beaucoup de têtes. Il n'y a aucune raison pour que génétiquement, je ne sois pas plus proche de vous, si vous voulez, que d'une Congolaise que je rencontrerai dans le métro. Alors que le phénotype, comme on dit, semblerait indiquer une proximité plus grande entre elle et moi. Le fait que la génétique des populations, si vous voulez, dissolve par en dessous, pour ainsi dire, les grands marqueurs racistes qui faisaient qu'on mettait tous les gens dans le même paquet par des identifications les plus immédiates, ça, c'est une bonne leçon scientifique et philosophique, je crois, une leçon d'humanisme, je dirais.
Bonjour Evelyne Heyer.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour, comme vient de le rappeler, le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne, professeur à l'université Columbia à New York, pour partager une vraie leçon d'humanisme. Avec cette Odyssée des gènes, c'est le titre de l'ouvrage que vous venez de publier aux éditions Flammarion. C'est une vraie somme qui devrait faire référence. 7 millions d'années d'histoire de l'humanité révélée par l'ADN. Et si cette histoire collective de migration, de rencontres, de mélange, de métissage, dont nous sommes tous les héritiers que vous avez à cœur de partager. Evelyne Heyer, je rappelle que vous êtes professeure d'anthropologie génétique au Muséum National d'Histoire Naturelle, également commissaire scientifique au Musée de l'Homme. Vous avez notamment monté l'exposition « Nous et les autres, des préjugés au racisme ». Vous avez aussi dirigé l'ouvrage collectif « Une belle histoire de l'homme » ainsi que le très instructif « On vient vraiment tous d'Afrique ?» point d'interrogation. Et vous menez de nombreuses missions de terrain, notamment vous en avez mené auprès des Pygmées et puis des peuples d'Asie centrale. Alors comment, pourquoi, Evelyne Heyer, les gènes des populations actuelles permettent-elles de remonter le temps et au fond toute l'histoire collective de notre humanité? Les gènes, ça serait quoi? Une sorte de machine à remonter le temps?
Oui, en quelque sorte, on peut le voir comme ça. En fait, votre ADN, vous en recevez la moitié de votre père, la moitié de votre mère. Votre père en a reçu la moitié de son père, la moitié de sa mère. Votre mère, la moitié de son père et la moitié de sa mère, etc. Ce qui fait que, en fait, votre ADN, c'est un peu une mosaïque de tous les bouts que vous avez reçus d'une bonne partie de vos ancêtres. Et donc, quand on regarde l'ADN d'un individu, nous, on travaille plutôt par population, donc de plusieurs individus d'une même population, en fait, c'est toutes ces histoires de leurs ancêtres qu'on peut retracer et notamment les migrations qui ont eu lieu dans le passé. Parce qu'on se rend compte dans notre histoire qu'en fait, on a tous des ancêtres migrants.
On a tous des ancêtres migrants, tiens donc. Donc on est tous, l'humanité est migrante, hein, et nous sommes issus de migrants, et nos enfants seront aussi migrants. Hein, ça, c'est déjà une première leçon.
Tout à fait, ça c'est la première leçon. Si on compare à nos cousins les plus proches, les chimpanzés, les gorilles et les orang-outans, on a quand même un peu comme spécificité d'être partis explorer toute la planète, alors qu'eux sont restés très localisés dans les zones de forêt où leur espèce vit, alors que nous, on est allés de partout. On est allé de partout, je pense, parce qu'il y avait une certaine curiosité, parce qu'on ne voit pas tellement de raisons. Il n'y a pas de réfugiés économiques il y a des dizaines de milliers d'années. Et pourtant, on part autour de toute la planète. Et on a su, à chaque fois, ce qu'il y a d'extraordinaire, s'adapter d'un point de vue technique, par exemple faire des vêtements dans les endroits froids. Mais on s'est aussi adapté d'un point de vue biologique aux différents environnements qu'on a rencontrés.
Et cette humanité migrante, donc voyageuse, vagabonde par essence, elle est partie d'un même lieu, si j'ose dire. Ça, c'est une certitude aussi. On est tous issus d'Afrique.
On est tous issus d'Afrique, c'est clair. Ça a été démontré, redémontré, revalidé. Notre espèce, Homo sapiens, émerge en Afrique il y a environ 300 000 ans. Et on a une sortie d'Afrique de notre espèce aux alentours de 70-100 000 ans, dont les populations à l'extérieur de l'Afrique sont issues.
Alors, on a une question soulevée par un de nos fidèles auditeurs, d'ailleurs, que je salue, c'est Mokhtar Nyang qui nous écrit ça sur Facebook depuis Richard Toll au Sénégal. Je le cite, en parlant d'anthropologie génétique, est-ce qu'on peut dire que l'Homo sapiens que nous sommes a le patrimoine génétique de ses ancêtres? Alors, ici, Néandertal, Erectus, Homo habilis.
Oui, tout à fait. On a reçu par descendance en lignée directe, je veux dire, le patrimoine génétique de tous les ancêtres sur la lignée humaine depuis notre séparation avec le chimpanzé qui date de 7 millions d'années. Et en plus, lorsque Homo sapiens sort d'Afrique il y a environ 100 000 ans, il rencontre des cousins, les hommes de Néandertal, qui eux sont issus de sorties précédentes. Donc on a eu par descendance, puis à la suite à nouveau par mélange, on a récupéré à nouveau des gènes, entre guillemets, des ancêtres.
Donc c'est vraiment à chaque fois des allers-retours hein, aussi. Enfin, cette histoire de route, de migration, de rencontre, de métissage, c'est ça notre histoire. Et on en a la trace en nous aujourd'hui.
Tout à fait, c'est ces histoires de métissage, parce que bien sûr, quand notre espèce part à l'aventure à l'extérieur de l'Afrique, elle rencontre Néandertal, mais il y a aussi eu des migrations dans l'autre sens. Hein. Elles sont moins fortes, mais il y en a toujours eu dans tous les sens. Et c'est fascinant de voir comment maintenant, avec les outils développés, avec la lecture des génomes, des outils informatiques puissants, parce que c'est des gros jeux de données, on arrive à affiner et à retracer ces routes migratoires et aussi apercevoir des éléments de comment vivaient ces ancêtres dans le passé.
Est-ce qu'on a un ancêtre commun, bien sûr, mais le papy de l'humanité, il aura quel âge et...
Alors, le papy de l'humanité, des mathématiciens se sont amusés à le calculer en tenant compte des généalogies de tout le monde et ils estiment que notre plus récent ancêtre commun à toute l'humanité serait très récent, il daterait de 6-10 000 ans, ça dépend des calculs qui sont faits. Et c'est pour rappeler aussi que nous sommes tous cousins et cousins proches, même de gens éloignés de la planète.
Nous sommes tous parents aujourd'hui. Alors vous, ce qui vous intéresse particulièrement, Evie Neyer, ce que vous étudiez et cherchez à comprendre, c'est à évaluer l'effet de la culture, hein, parce qu'elle joue beaucoup sur notre évolution génétique. À ce sujet, une question pour vous, soulevée par un autre grand généticien des populations, le professeur Luis Quintana Murci de l'Institut Pasteur, professeur au Collège de France sur la chaire d'évolution humaine et génétique des populations.
Donc, chère Evelyne, j'aimerais que tu nous expliques un peu plus comment les différentes pratiques culturelles de notre espèce, et la culture plus généralement, peuvent vraiment affecter la façon dont la diversité génétique est distribuée entre populations.
À vous de répondre, Evie Neyer.
Le premier élément assez simple à comprendre, c'est qu'on a tendance à se marier avec des gens qui nous ressemblent. Donc, on va avoir tendance à se marier, par exemple, avec des gens qui parlent la même langue que nous, plutôt que de se marier avec des gens de langues différentes. Par exemple, on a observé en Asie centrale que les gens préfèrent se marier à quelques milliers de kilomètres de là avec des gens qui parlent la même langue, plutôt que de se marier avec le village d'à côté où les gens ne parlent pas la même langue. Donc, on voit déjà là un élément très simple. Après, Après, un autre élément fort sur lequel on travaille beaucoup au laboratoire, c'est que dans toutes les sociétés, on a des espèces de règles sociales. Avec qui on va se marier, à qui on transmet nos descendants. Est-ce que quand il y a un mariage entre un homme et une femme qui viennent de villages différents, c'est l'homme qui bouge ? Où c'est la femme qui bouge ?
Ah, ça change évidemment le patrimoine génétique.
Enfin, bien sûr, parce que nous, on se rend compte au niveau à l'échelle de notre espèce, c'est surtout les femmes qui ont bougé du fait de ces règles de mariage. En général, quand deux personnes viennent de villages différents, c'est souvent la femme qui va rejoindre le village de l'époux. C'est pas partout pareil, hein, parce que ce qu'il y a de génial avec l'homme, c'est qu'à chaque fois, c'est différent et à chaque fois, il y a des exceptions. Mais néanmoins, c'est quelque chose de général. Et puis, le troisième élément fort de diversité et en quoi la culture peut jouer, c'est le fait que ce qui fait que vous transmettiez beaucoup de gènes, c'est le nombre d'enfants que vous avez. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de cultures où, par tradition, le nombre d'enfants que vous avez, ben, vos enfants vont avoir tendance à avoir aussi le même nombre d'enfants. Si vous avez beaucoup d'enfants, si vous êtes dans une grande famille, vos enfants vont avoir tendance à avoir beaucoup d'enfants. Vous êtes dans une petite famille, les enfants vont avoir tendance à avoir moins d'enfants. Et ça, c'est purement culturel. Et cette transmission, je dirais, de cette manière dont envisager le monde, quelque part, va avoir un impact sur la diversité génétique.
On transmet plus ou c'est plus on a d'enfants, plus c'est divers ou au contraire
En fait, c'est parce que si dans une société, vous avez certains individus qui ont beaucoup d'enfants, dont les enfants ont beaucoup d'enfants, ils vont beaucoup transmettre leur patrimoine génétique. Ah. Et vous prenez une autre population à côté où c'est d'autres gens qui étaient différents génétiquement, par hasard, qui eux aussi vont transmettre beaucoup. Et ben, du coup, ça va créer des différences entre les populations qui sont exemplifiées par la culture, avec bien sûr toujours des migrations entre les deux. Et le dernier exemple, c'est quand on change nos pratiques culturelles. Par exemple, l'alimentation. Quand on a un type d'alimentation, on constate que des fois, il y a eu des adaptations génétiques. C'est le cas de ce qu'on appelle la persistance de la lactase. Tolérer le lait. Naturellement, comme tous les mammifères, les adultes, on ne devrait pas digérer le lait. Et il y a des populations humaines où 90% des adultes digèrent le lait. Et ça, on sait que ce sont des mutations génétiques qui sont devenues avantageuses dans des cultures où les gens avaient une forte alimentation en lait frais. Alors, on le retrouve, par exemple, au nord de l'Europe, on le retrouve au Moyen-Orient, on le retrouve aussi dans certaines populations en Afrique. De manière surprenante, on ne le retrouve pas en Asie centrale alors que les gens consomment beaucoup de lait. Donc là, on voit, c'est un élément de la culture de consommer beaucoup de lait, c'est un choix culturel, et il a carrément laissé une empreinte dans notre patrimoine génétique.
À quelle échelle de temps, justement, ça laisse un changement d'alimentation, par exemple, peut laisser une empreinte dans notre patrimoine
génétique ?
Quelques
milliers d'années. On a l'exemple des Inuits, donc les entre guillemets ce qu'on appelait avant les Esquimaux, qui ont par exemple une adaptation à la digestion de gras, d'une forme de gras que l'on retrouve dans les mammifères marins qu'ils consomment éminemment. Donc ça s'est fait en 1000 ou 2000 ans dans ce cas-là.
Donc ce sont des échelles de temps différentes, mais pas si énormes que ça finalement, ça va assez vite l'adaptation génétique au fond.
Oui, finalement 1000 ans c'est quoi? C'est 30 générations, 40 générations. Donc oui, ok, on s'en souvient pas. Mais quand même, c'est pas si loin que ça. Faut pas oublier qu'on se sépare de la lignée qui va donner le chimpanzé il y a 7 millions d'années. Donc 1000 ou 2000 ans, c'est rien du tout.
C'est pas grand-chose pour un généticien. Surtout la question, comment la mémoire de l'humanité est inscrite dans nos gènes? Vous avez parlé évidemment de nos gènes migratoires, des routes empruntées. C'est aussi ces routes empruntées, en quelque sorte, une relecture du peuplement du monde que l'on peut faire aujourd'hui grâce à la génétique. On ne sait pas toujours par où nos ancêtres sont passés. On le redécouvre aujourd'hui. Je propose un petit arrêt à bord du Kon-Tiki, vous savez, le célèbre radeau de Balsa utilisé en 1947 par l'anthropologue norvégien Thor Heyerdahl pour son expédition dans le Pacifique, où il tentait de démontrer, en faisant dériver ce radeau, en gros du Pérou jusqu'en Polynésie, sur l'atoll des Tuamotu, que les premiers Polynésiens, contrairement à ce qu'on croyait, étaient venus d'Amérique et non pas d'Asie. L'odyssée du Kon-Tiki est devenue mythique, mais le débat n'était toujours pas tranché jusqu'à ce que, tout récemment, des analyses génétiques démontrent effectivement que l'intuition de Thor Heyerdahl était peut-être juste, qu'il existe en tout cas des croisements anciens entre Amérindiens et Polynésiens. Vous allez réagir là-dessus, Evelyne Heyer, mais d'abord, petit rappel des faits et de l'odyssée du Kon-Tiki avec cet extrait du film Kon-Tiki sorti en 2013 et la voix de Thor Heyerdahl que l'on entendra ensuite.
Je vais traverser l'océan Pacifique parcourir 5000 milles nautiques et prouver que les Péruviens ont été les premiers à peupler la Polynésie. La distance est plus grande qu'entre Chicago et Moscou.
Regardez autour de vous. Dans chacun de ces livres, un scientifique développe une théorie. Monsieur Heyerdahl, vous voulez qu'on croie à votre théorie? Alors allez-y. Laissez-vous dériver depuis le Pérou jusqu'en Polynésie sur un radeau en bois de balsa.
For Heyerdahl.
Although the Polynesian Islands.
Bien que les îles polynésiennes soient localisées dans la zone du Pacifique située à côté de l'Amérique, l'opinion générale s'est toujours accordée sur le fait que les premiers habitants y sont arrivés par le versant asiatique. Malgré de nombreuses recherches dans ce domaine, la seule certitude, c'est que cette question n'a jamais été résolue. Lors de mon séjour aux îles Marquises, de grands blocs de pierre ont attiré mon attention. Ils me rappelaient les pierres taillées des premières civilisations d'Amérique du Sud. J'ai donc commencé à me demander s'il pouvait y avoir un lien.
Ce lien évinéaire entre Amérindiens et Polynésiens, les premiers arrivés en Polynésie, est-ce qu'il a été prouvé, cette intuition de Heyerdahl, est-ce qu'elle a été prouvée? Il y a eu un article tout récemment, hein, cet été, dans Nature, le chercheur Ioannidis, qui disait qu'au fond, oui, il y avait en tout cas des croisements génétiques entre Polynésiens et Amérindiens.
Oui, alors il faut déjà bien situer l'ensemble. Oui. L'essentiel des Amérindiens actuels descendent d'une migration qui vient de Sibérie, qui date de 15-20 000 ans. Mais on trouve des traces qu'il y aurait eu peut-être un petit peu des échanges avec les Polynésiens. Et d'ailleurs, il y a un article qui est sorti il y a 3-4 ans qui lui était basé sur la patate douce et qui montrait que la patate douce trouvée en Polynésie dans des herbiers anciens venait vraisemblablement de l'Amérique. Donc il y avait cette idée qu'il y aurait eu des échanges et effectivement, là, avec les données génétiques, on voit qu'il y aurait eu quelques mélanges. On ne sait pas encore dans quel sens, mais il faut bien replacer les choses. Il y en a peut-être eu, mais en tous les cas, c'est minime. L'essentiel du patrimoine génétique des Amérindiens descend de ces premières arrivées par le nord, par le détroit de Bering, il y a 15 ou 20 000 ans.
C'est vraiment une machine à remonter le temps, à remonter les routes migratoires, à remonter les routes des conquêtes aussi. Parce que c'est une des grandes questions que vous posez dans ce livre, c'est comment cette poignée d'Homo sapiens là, qui était au début dans la savane s'est mise à conquérir, envahir absolument toute la Terre. Et ce sont ces questions-là aussi que ça soulève. Finalement, il y a aussi des surprises hein, dans ces recherches génétiques à propos des routes de conquête.
Oui, alors on a trouvé par exemple en utilisant des techniques, on dit d'ADN ancien, c'est-à-dire cette fois-ci on n'utilise pas de l'ADN des gens contemporains, mais on cherche dans les os anciens de l'ADN. Il y a eu une assez grande surprise au niveau européen de voir que, je vais le refaire dans l'autre sens. En Europe, grosso modo, on a trois grandes composantes génétiques. Oui. On a les premiers chasseurs-cueilleurs qui sont arrivés il y a 40 000 ans en Europe, que la génétique montre qu'ils étaient noirs de peau avec des yeux bleus. On a une seconde arrivée qui est l'arrivée au moment de l'agriculture où ce sont des agriculteurs du Moyen-Orient qui arrivent en Europe, qui se mélangent avec ces premiers chasseurs-cueilleurs. Et surprise, on a une arrivée des peuples des steppes, il y a environ 4000 ans, qui viennent à peu près du nord de la mer, de la mer Caspienne, et qui viennent eux aussi en Europe et se mélangent avec ceux qui étaient déjà mélangés avant. Et ça, c'est vrai que ça a été une surprise, c'était assez inattendu. Autant l'arrivée des agriculteurs, il y avait beaucoup d'archéologues qui en avaient parlé, autant une arrivée aussi importante de ces nomades des steppes, donc on dit à l'âge du bronze, ça a été une révélation assez surprenante.
Est-ce que ça a un lien avec ces invasions qui n'ont peut-être de barbares que le nom, mais est-ce que ça a un lien avec ça?
Ah, les invasions barbares, ce qu'on appelle les invasions barbares, c'est bien plus tard. Oui, c'est plutôt, je dirais, vers le 5e siècle après Jésus-Christ, alors que là, on est plutôt à environ 2 à 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc il y a 5000 ans, ce qui explique aussi pourquoi on n'avait pas tant de données que ça. Et donc la question à l'heure actuelle qui devrait intérêt à avancer, c'est de savoir, bon, est-ce que c'est des arrivées rapides ou c'est des arrivées sur un certain nombre de générations. Les derniers articles que j'ai vus, ils disent que c'est quand même une histoire de 1, 2, voire 3, 4 siècles. Et puis, comment ça s'est fait, quoi ?
Pourquoi ? Comment ça s'est fait ? Est-ce que c'était l'esprit de conquête hein, dont vous parlez ? Est-ce que c'était autre chose, l'esprit d'exploration ? Est-ce que ça s'est fait de manière forcée, ces migrations et ces... Enfin, on ne sait pas.
En fait, on ne sait pas. Comme on a des données archéologiques, on sait qu'il n'y a pas eu de traces de massacre à ce moment-là. Néanmoins, il y aurait eu quand même, avant leur arrivée, peut-être une forte épidémie de peste. C'est certains chercheurs travaillent sur cette hypothèse-là. Ça n'a pas encore été démontré. Pour l'instant, c'est uniquement une hypothèse.
Autour de la question, pourquoi et comment la mémoire de l'humanité est inscrite dans nos gènes. On continue de s'interroger à l'écoute d'autres métissages musicaux venus aussi des steppes et du Grand Nord. Quand les chants de gorge du groupe mongol Hu ont des accents rock'n'roll, on écoute Wolf Totem, le totem du loup sur RFI. Les chants de gorge, le groupe Roux sur RFI, c'est puissant, ça déménage, Evinéia. On sent bien là le qu'on a que, en tout cas, dans leurs gènes, peut-être dans nos gènes, il y a des siècles de
ah oui, ça amène loin, hein, ouais, ça fait voyager. Ouais, non, ouais. Mais c'est vraiment des pays extraordinaires. Hein. Moi, j'ai eu la chance, par mon travail, d'aller dans toutes les républiques d'Asie centrale, puis après, plus à l'est, donc dans le sud de la Sibérie, République Touva et d'Altaï, qui sont à la frontière de la Mongolie, et puis finalement d'aller en Mongolie. L'idée, c'était d'échantillonner les populations pour arriver à un peu retracer l'histoire de tous ces groupes. Hein. C'est des zones du monde où on a une très grande diversité de modes de vie. Vous avez des éleveurs nomades, vous avez des agriculteurs, vous avez toutes sortes de religions, vous avez plusieurs langues très différentes qui sont parlées. Et c'était d'essayer de comprendre un peu cette dynamique de mode de vie, de culture et de diversité génétique.
Vous avez un peu percé le mystère de ces régions, de ces peuples semblables et différents, enfin...
Alors, c'est vraiment une des zones, on s'en doutait, mais traversée par des migrations, d'abord d'ouest en est, puis beaucoup d'est en est, et avec à chaque fois, quand même, on voit la langue qui reste quelque chose de fort et qui joue sur les diversités génétiques, encore une fois, parce que c'est ces zones du monde où on préfère se marier avec quelqu'un qui parle la même langue langue, même s'il est loin, plutôt qu'avec quelqu'un d'à côté qui parlerait une langue différente. Et puis en plus, des alimentations traditionnelles très différentes, parce que vous avez des agriculteurs qui mangent plutôt des céréales et des fruits, et puis vous avez des éleveurs nomades qui ont une alimentation riche en produits laitiers. Donc c'est un peu tout ce mélange qu'on a pu retracer. Et ce qu'il y a de fascinant, c'est que là, partout où on est allé, les gens sont friands de nos études, c'est-à-dire ça les intéresse. Quand on leur dit on veut regarder dans votre ADN pour retracer votre passé, vos ancêtres, voir comment il y a eu des migrations dans le passé, ça les fascine. Surtout en Russie, quand on leur explique que c'est leurs ancêtres qui ont colonisé l'Amérique, ils sont très fiers.
Et il y a un retour pour eux, hein, parce que vous trouvez les résultats de vos analyses.
Tout à fait, mais jamais au niveau individuel, vu que nous, c'est complètement anonymisé. Ah. Mais on ramène des données
sur les populations.
Donc après, on a publié dans des journaux locaux en russe, on fait des retours, oui, bien sûr, parce que ça intéresse les gens.
Bien sûr. Autre population qui vous intéresse beaucoup et avec lesquelles vous avez travaillé, sont les populations pygmées. Avant de vous laisser réagir, nous expliquer pourquoi, quel intérêt d'étudier génétiquement ces populations pygmées. Je propose d'abord, autour de ce mot pygmée, hein, qui peut être vu de manière négative ou positive, d'écouter ce qu'en pensent les pygmées eux-mêmes. Petit extrait du film documentaire CNRS Images, Pygmée Baka, le grand virage, co-réalisé par Laurent Maget avec la communauté de pygmées Baka avec lesquels il a travaillé.
Le mot pygmée, c'est venu avec les Blancs. Les Blancs qui donnaient le mot pygmée.
Voilà. Et tu dis que tu n'aimes pas ce mot pygmée.
Hein? Parce que le mot pygmée, c'est comme si tu m'as insulté. Ouais. Parce que j'en ai marre de ce mot. Je n'ai pas entendu le mot pygmée. C'est pas bien. C'est pas moi seul, hein? Même chez les autres Baka.
Le mot pygmée ne me gêne pas. Ne me gêne pas. Pourquoi? Parce que je sais que moi, je suis une Camerounaise à part entière. Bon, de l'autre côté, mes frères prennent ça comme si c'était une injure. Moi, je leur dis toujours non, c'est pas une injure. Si on te dit pygmée, ça veut dire que tu es pygmée, c'est Dieu qui t'a créé comme ça. Et les gens même qui adressent souvent ce mot-là, ils prennent ça comme si c'était une injure. Regarde-moi une pygmée comme ça là. Par exemple, si un bantou vit avec une fille pygmée, on dit c'est tout ce que tu allais trouver, aller épouser une fille pygmée. Moi, ça ne me gêne pas.
Pas simple d'être pygmée aujourd'hui en Afrique centrale. Et Vinayer, vous avez travaillé auprès de ces populations de pygmées Baka. Pourquoi est-ce qu'ils vous intéressent tant que ça, la généticienne des populations que vous êtes ?
Alors déjà, je voulais revenir effectivement sur pygmées. C'est une catégorie européenne pour désigner en fait tous ces peuples de petite taille, mais chacun, ils ont un nom. Vous avez les Baka, les Haka, les Babongo, les Koya, etc. C'est tout à fait exact. C'est un terme européen, mais avec les études génétiques qu'on a pu faire, on a pu montrer qu'ils avaient une origine commune. C'est-à-dire que ces populations-là qui ignorent souvent l'existence des autres, qui sont beaucoup plus loin, ont quand même une origine commune. Alors pourquoi ces populations-là sont particulièrement intéressantes ? Parce que ce sont des populations dites de chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire que la base de leur alimentation, c'est surtout la chasse et la cueillette. Bon, maintenant, ils échangent toujours avec leurs voisins agriculteurs, hein. Mais néanmoins, ça nous renseigne, ça nous donne des idées pour penser un peu l'évolution humaine, étant donné que dans l'essentiel de notre histoire, nous étions chasseurs-cueilleurs. L'agriculture, elle est arrivée, je rappelle, il y a seulement environ 10 000 ans, alors que notre espèce, elle émerge il y a environ 300 000 ans. Donc, pour l'essentiel de notre histoire, on est plutôt chasseurs-cueilleurs. Et de ce fait-là, d'étudier ces groupes, ça nous renseigne sur comment comment ces groupes fonctionnent, comment ils échangent, est-ce qu'ils se différencient. Il y a par exemple beaucoup de diversité génétique entre les groupes pygmées, beaucoup plus que si vous regardez des populations d'agriculteurs. Donc ils fonctionnent plus en petits groupes, avec des échanges, mais moins forts que les populations d'agriculteurs qui, elles, se ressemblent beaucoup entre elles génétiquement.
On rappelle tout de même que ces populations de chasseurs-cueilleurs qui se mélangent sont aussi évoluées que nous et ont évolué comme nous. Hein. Ils sont pas restés.
Ah oui, non, tout voilà. À fait. Et d'ailleurs, ça a été une des grandes découvertes des années 70 que finalement les populations d'Afrique centrale, dont les populations dites pygmées, avaient une musique aussi évoluée que la musique de Bach, avec des techniques de polyphonie, etc. Donc oui, non, bien sûr, on est tous aussi évolués les uns que les autres. Mais vous avez raison, ça fait du bien de le rappeler, parce que c'était quand même le paradigme des années 30, c'est qu'il y avait des espèces de marche d'évolution des différentes populations, alors que maintenant, heureusement, on en est bien revenu.
Voilà, on en est bien revenu, on est tous au même niveau d'évolution, et comme le soulignait le philosophe Souleyman Bachirdian au début de cette émission, ce qu'on se trouve dans l'ADN, dans le génome, n'est pas toujours ce qu'on trouve au premier abord, physiquement, dans la personne que l'on regarde, hein, oui, dans les catégories que
l'on fait. Et d'ailleurs, une des grandes surprises qui a eu lieu dans les années 60-70 et qui a été confirmée après, c'est que les catégories qui étaient appliquées à cette époque-là, qui étaient des catégories raciales, en gros blanc, noir, jaune, etc., mais en fait, il y avait très peu de différences génétiques entre elles. C'est-à-dire, il y a tellement eu toujours de mélange entre les différents groupes humains, les populations humaines, qu'en fait, il y a très peu de différences génétiques entre ces différents groupes humains, beaucoup moins que ce qu'on aurait imaginé dans notre vision avec des groupes étanches de races, etc.
C'est ça. Et quelles sont les plus grandes différences génétiques aujourd'hui, parce qu'il y a une diversité insensée, formidable d'ailleurs.
Alors là où il y a le plus de diversité génétique, c'est en Afrique. Hein. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité et c'est là où il y a le plus de diversité génétique. D'abord parce qu'il y a des populations différentes qui sont différentes entre elles, mais même à l'intérieur de chaque population africaine, vous avez plus de diversité génétique. Quand Homo sapiens s'aventure à l'extérieur de l'Afrique, il perd de la diversité génétique. Une population européenne ou asiatique a toujours moins de diversité génétique qu'une population africaine. On a un sous-échantillon de la diversité qu'il y a en Afrique.
Ça fait pas de mal de le rappeler aussi, hein, que la plus grande diversité génétique humaine aujourd'hui est sur le continent africain. Justement, sur le continent africain, autour de la question comment la mémoire de l'humanité est inscrite dans nos gènes. Alors, sur le continent américain aussi, est inscrite une mémoire très douloureuse. Hein, la migration forcée des esclaves, le commerce triangulaire, vous pouvez vous l'étudiez dans les gènes et ça a permis aussi à des Afro-Américains de remonter à leurs origines.
Oui, c'est d'ailleurs le début des tests d'origine génétique dont on entend souvent parler. C'était quand même un souhait très fort des populations afro-américaines de pouvoir remonter, retracer d'où elles venaient en Afrique. Et effectivement, alors la plupart des populations afro-américaines sont extrêmement métissées, mais pour la part de leur génome qui retrace à leurs ancêtres africains, maintenant on arrive à situer les régions d'où viennent leurs ancêtres africains. Oui, c'est fascinant.
Et ces migrations forcées, on ne voit pas, enfin, dans l'ADN, grâce aux études génétiques, on ne voit pas si les migrations ont été forcées ou plus ou moins forcées. Ça ne se voit pas. Il n'y a pas de trace de. Ou est-ce qu'on peut.
Non, mais on a quand même des petites choses. Par exemple, on voit que dans les populations afro-américaines, la contribution européenne est surtout passée par les hommes. Et la contribution africaine par les femmes. Bon, en plus, c'est vrai qu'on connaît l'histoire, mais on voit bien que dans ce cas-là, ça permet de retracer des rapports de domination passés. Bon, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'il y a des différences de contribution homme-femme, il y a eu des rapports de domination. Mais en tous les cas, dans ce cas-là, effectivement, avec l'ADN, on arrive à retracer ça. Et c'est pour ça que les descendants suite à la colonisation des Européens sont très différents selon les pays d'Amérique. Par exemple, les pays qui ont été colonisés par les Espagnols, les Espagnols se sont mariés sur place avec des Amérindiennes. Et après aussi, il y a eu des mélanges avec les esclaves qui ont été amenés de force. Mais du coup, ça fait des patrimoines génétiques différents.
Ouais, du coup, de l'influence de la culture, hein, vous le disiez, l'influence de la culture et des mariages. Elle est in memoriam, en mémoire de ces migrations forcées qui sont inscrites dans nos gènes. Je vous propose d'écouter la chanson de Gorée, signée Pierre Akendengue sur RFI.
Demba, 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 demba. Gore 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 oh, gore 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 oh. Ce matin là à l'aube, sous race jette à l'encre. Sous race, c'est ce bateau-là, lieu de la mémoire de la mer qui ramène dans ses vagues les souvenirs des drames. Ils viennent rendre l'âme sur notre rivage. Souviens-toi, Africa, de Gorée, Africa. Gorée, 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 oh. Gorée, 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 oh. Cinq coups de canon en guise de téléphone. Souras, c'est ce bateau même qui avait emporté l'avant-père de mon père, l'avant-mère de ma mère, et même les voisins et leurs voisins aux vampires du lointain. Souviens-toi, Africa, de Gorée, Africa. Gorée, 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 oh. Gorée, 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 oh. Malgré l'appel au calme des notables vaincus, traîtrises puant l'alcool, la terreur s'empara de toute notre terre. Les tam-tams se sont tués, même les dieux se sont enfuis vers l'arrière-pays au lieu dit tant pis. J'ai poutou me. Souviens-toi, Africa.
Qui Ron Pogu
de Gorée, Africa. L'histoire de Gorée, c'est chanter comme on pleure, c'est pleurer comme je chante. Gorée, malgré la belle calme.
Souviens-toi, Pierre Akendengue, sur RFI, la chanson de Gorée. Autour de la question comment la mémoire, la meilleure comme la pire de l'humanité, est inscrite dans nos gènes, nous sommes en compagnie d'Evelyne Heyer, professeure d'anthropologie génétique, qui vient de publier L'Odyssée des gènes aux éditions Flammarion. 7 millions d'années d'histoire collective de l'humanité révélée par nos gènes, qui gardent, on l'a compris, la trace de toutes nos migrations, forcées ou non, de tous nos métissages. Et ils sont extrêmement nombreux, qui en quelques millions d'années ont abouti à nous aujourd'hui, hein, 7 milliards et demi d'individus sur Terre. C'est énorme, ça, c'est insensé, on n'a jamais été autant sur Terre.
Ah non, mais c'est insensé, il faut voir, hein, aux alentours de 1800 de mémoire, on n'est même pas un milliard. D'accord ? Il faut bien se rendre compte, tous les éditeurs qui nous entendent, qu'il y a 30 ans, il y avait deux fois moins d'individus sur la planète. Il y avait deux fois moins d'humains sur la planète.
Exponentiel.
C'est exponentiel. C'est vertigineux. En fait, on a commencé à faire une croissance démographique au moment de l'agriculture.
Voilà, on néolithique.
Au néolithique. Donc, il y a 10 000 ans. Okay, à 10 000 ans, il y a des populations qui se mettent à domestiquer la nature, à planter des plantes, hein, et à domestiquer des animaux. Et ça entraîne une croissance démographique. En fait, c'est des populations qui étaient déjà en croissance démographique qui ont fait la transition vers l'agriculture. Et en retour, une fois qu'elles ont fait la transition vers l'agriculture, elles sont rentrées en croissance démographique.
Elles ont pu se développer en étant plus nomades, en ayant plus d'enfants, en étant installées.
Donc, mais c'est le moment, je dirais, où on passe de quelques milliers à peut-être un million sur la planète,
c'est
quoi,
pas
quelque
chose
comme ça. Peut-être quelques millions, mais c'est rien du tout. Et en fait, la deuxième grande révolution, c'est ce qu'on appelle la révolution démographique. C'est à partir du 18e, ça commence dans les pays européens, où on a une diminution des décès d'enfants. Avant ça, en général, seulement un enfant sur deux survivait à 15 ans. Et là, on a une diminution de la mortalité des enfants qui, après, est suivie par une diminution de la fécondité. C'est-à-dire, on passe de beaucoup d'enfants qui meurent beaucoup à peu d'enfants qui meurent peu. Mais pendant ce temps-là, il y a tout un moment où on a des enfants qui meurent moins, mais on continue à avoir une fertilité élevée. Alors, par exemple, l'Angleterre, de mémoire, ils multiplient leur population par 6 en 150 ans. Quoi. C'est un tout petit pays, l'Angleterre, avant la révolution démographique. Par contre, en France, on a moins cru. On a augmenté un peu, mais pas tant que ça. Et donc, cette révolution démographique, après, elle se propage dans le monde entier. On a cette révolution démographique. Tous les pays sont entrés dans cette transition démographique. Et ça entraîne inévitablement, à un moment, un surcroît de population. Et c'est pour ça qu'on passe en quelques siècles de moins d'un milliard à 7 milliards.
Quoi. Et c'est pour ça qu'une poignée au fond d'Homo sapiens devient aujourd'hui l'espèce qui domine toute la Terre.
Qui a envahi toute la Terre.
Ça pose question, généticien que vous êtes. Est-ce que ça ouvre aussi sur une plus grande diversité génétique aujourd'hui? Et quelles questions ça vous pose?
La diversité génétique, oui et non, parce que le pool génétique de notre espèce est très marqué par toute la période où on était seulement quelques milliers. Il y a deux fois moins de diversité génétique chez les humains que chez les chimpanzés, trois fois moins chez les humains que chez les orang-outans de l'île de Bornéo. Donc on a été pendant très longtemps une espèce qui s'en sortait pas très bien. On était une petite taille de population. Et donc c'est l'essentiel de ça qui a modelé notre diversité génétique.
Donc on est encore plus tous parents que les autres espèces.
On est encore plus tous parents que les autres espèces, tout à fait.
Malgré nos différences de couleur, voilà. De peau, de cheveux, de tout ce qu'on veut.
Alors après, c'est évident que plus on est, plus par hasard, il y a des mutations différentes qui apparaissent chez les gens. Mais du coup, quand on est très nombreux, c'est compliqué pour une mutation de se répandre un peu partout. Donc on a plein de petites mutations différentes, pas très fréquentes sur l'ensemble des génomes. Et ce qui est vertigineux, là, c'est de se dire que, d'après les prévisions des démographes, on va atteindre 9, 10 ou 11 milliards, avec quand même des projections qui disent qu'après, ça devrait rediminuer.
Mais c'est une vraie question, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on est tellement nombreux sur Terre, qu'on domine tous les autres, qu'on a conquis toute la Terre. En tant que généticienne, vous touchez à des questions démographiques, évidemment, mais philosophique, environnemental aussi, ça nous y entraîne.
Ça nous y emmène, parce que donc après cette transition démographique qui fait que nous sommes si nombreux, maintenant il faut bien faire la transition écologique. Il faut maintenant qu'on sache utiliser, entre guillemets, les ressources de la planète à bon escient, notamment arrêter l'espèce d'avidité de toujours plus, ça c'est évident.
Oui, surtout à 7 milliards et demi, voire à 9 milliards d'êtres
humains.
Oui,
mais si
sur
à 9 milliards on se comportait tous correctement, il n'y aurait aucun problème.
Ah, c'est bien de le dire, ça aussi. Autre question d'actualité, évidemment. Est-ce que parmi vos collègues généticiens, est-ce qu'il y a aussi des travaux au niveau des résistances aux maladies et notamment au niveau de cette épidémie qui nous touche sur toute la Terre actuellement? Est-ce qu'il y a des pistes du côté de la génétique pour comprendre comment on s'est adapté, on pourrait s'adapter? Vous avez trace des épidémies, évidemment.
Oui, alors bien sûr, il y a des gros consortiums internationaux qui essayent de voir s'il y a des gènes impliqués dans le fait d'être touché ou pas par la Covid et les formes plus ou moins graves de la maladie. Parce que ce que nous enseigne l'histoire, c'est par exemple, on voit le sida, il y a des gènes de résistance dans le CCR5, il y a des mutations dans ce gène qui permet à certains individus d'être résistants au sida. Donc l'idée, c'est de voir effectivement, est-ce qu'il n'y a pas des facteurs de susceptibilité génétique. Mais bon, c'est plutôt le monde médical qui travaille là-dessus, parce qu'il faut avoir accès à des données des patients, savoir leur état de santé, etc.
Alors que je rappelle, vous travaillez anonymement sur des populations.
Oui, nous on travaille anonymement et on travaille sur des gens pas malades, quoi, des gens dans la rue, des gens qu'on rencontre dans différents endroits et qui veulent bien participer à nos études.
Et que pensez-vous, Evelyne Ayard, de la multiplication de tous ces tests ADN en kit pour justement chercher nos ancêtres, même si vous l'avez dit, c'est... ça a été lancé aussi par des Afro-Américains qui voulaient retrouver leurs ancêtres. Aujourd'hui, on trouve un peu tout et n'importe quoi sur le net. Qu'en pensez-vous ?
Bah, moi, j'en pense deux choses. Déjà, il faut bien savoir comment ça marche. On compare votre ADN à l'ADN de populations dites de référence qu'ont, entre guillemets, en stock ces différentes compagnies. Donc, selon les populations de référence, vous pouvez avoir des résultats différents. Ce que je donne très simplement comme exemple, si la population de référence française est faite d'individus de la région de Nice et que vous, bien que d'origine française, vos grands-parents sont du Nord, il y a des chances qu'on vous trouve 100% belge. Voilà.
Donc, il faut peut-être s'en méfier un petit peu.
Bon, faut prendre ça avec des pincettes. Ouais. À l'échelle des continents, c'est à peu près congruent d'une compagnie à l'autre. Non, le gros problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces données ADN ?
Ah ben justement, là-dessus, j'ai une question pour vous, soulevée par le géohistorien Christian Grataloup, qui était ici même notre invité. Allez, on l'écoute.
Bonjour Evelyne Heyer. Oui, j'ai une question d'ordre d'éthique scientifique. C'est-à-dire que je suis évidemment, comme toute personne qui s'intéresse à l'histoire longue du monde et à sa dimension mondiale, absolument passionné par tout ce que vous m'apprenez, tout ce que nous apprennent les généticiens sur la diffusion, les croisements, les recoupements qui nous permettent de voir comment, par où sont passés les hommes, les sociétés, combien de temps ils sont restés. Mais il me semble qu'il y a un problème qui est absolument équivalent de celui des statistiques ethniques. C'est-à-dire qu'il y a débat, et je trouve que la réponse n'est pas simple sur les statistiques ethniques, de savoir chacun exactement quel est son patrimoine génétique, quels usages pourraient être faits de ce genre de choses par, je ne sais pas, les nazis du 22e siècle.
Que répondre à Christian Grataloup?
Il pose la bonne question. La question, c'est la protection des données. Qui y a accès et qu'est-ce qu'on peut en faire? Et bon, je ne sais pas, je crois que les lois de bioéthique sont toujours en débat ou elles sont débattues. Alors, la solution de facilité, c'était d'interdire ces tests d'origine, mais il y a plusieurs centaines de milliers de Français qui les font. Donc, à mon avis, l'idée, c'est plutôt de réfléchir à comment gérer ces données pour protéger les gens, pour qu'il n'y ait pas de mésusage de ce type de données.
Evelyne Heyer, on arrive à la fin de cette émission. On apprend grâce à vous, enfin des tas de choses dans cet ouvrage Odyssée des gènes. On apprend déjà qu'on est tous parents et très très parents sur cette terre, qu'on est tous divers, qu'on est tous migrants. C'est des jolies graines instillées dans le cerveau de chacun. Mais quel est votre espoir à vous dans ces études génétiques? Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir vraiment s'en rendre compte comme vous l'avez intégré vous-même?
J'espère que les gens vont se rendre compte, comprendre que bon, on a tous des ancêtres migrants. Tous nos ancêtres ne sont pas migrants, mais on a tous des ancêtres migrants. Et pour ceux qui ont des descendants, leurs descendants, il va y avoir des descendants migrants, il va y avoir des descendants qui vont se marier avec des migrants. Donc c'est pour rappeler en fait cette humanité. Moi, mon idée, c'est que c'est à aller explorer les différences, comme j'ai la chance de le faire dans mon métier, ces aventures où je rencontre des gens très différents. C'est en explorant ces différences que finalement, on se rend compte de l'universalité de l'humanité. Mmh. Et je pense que c'est ce message-là que je souhaite faire passer à travers ce livre.
Merci beaucoup, Evelyne Heyer, d'être venue en direct partager donc notre histoire collective, notre commune diversité qui pourrait devenir unité, en fait. Hein, c'est le meilleur qu'on pourrait se souhaiter. Je rappelle le titre de cet ouvrage qui devrait faire référence et qui se dévore, je dois le dire, comme un roman, L'Odyssée des gènes, paru aux éditions Flammarion. À bientôt, Evelyne Heyer.
Merci.
Autour de la question, c'est tout pour aujourd'hui, mais vous pouvez vous abonner à notre podcast. Quant à nous, avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Nachowski au micro, on se retrouve demain, si vous le voulez bien, dans notre fourmilière. Autour de la question, jusqu'où nous entraînerons les fourmis? Nous partirons sur les traces de ces extraordinaires insectes sociaux, reines, ouvrières et soldates, voire même infirmières, de leurs blessés de guerre. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Chers amis auditeurs, merci pour votre curiosité. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.